Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Gilbert trouve des affaires de son père très compliquées. Il demande à son père, « Mais comment fais-tu pour t'occuper de tout ça ?» Son père lui dit, « Je m'occupe que du global, pas du détail. Pour le détail, il y a du personnel spécialisé pour ça. » Gilbert lui dit, « Il y a une chose qui me chagrine, c'est cette histoire de greffe. J'aime pas du tout ça. » Son père lui dit, « Bientôt, les bactéries fabriquent les organes avec des bouts de peau prélevés chez le patient et sauf un moule en plastique spécial qui aura la forme de la partie que l'on voudra remplacer. De l'organe à recréer. Et nous n'aurons plus besoin d'organes humains ou autres. Gilbert lui dit, j'accepte de travailler tous les après-midi avec toi pour t'aider. Mon père lui dit, je te remercie. Maurice prévient Judith, comme elle est le chef du personnel, que son fils va travailler une demi-journée par jour avec lui. Judith lui dit, c'est très bien, monsieur.
Une fois entré dans son bureau, elle téléphone la bonne nouvelle à Harold. Allô, Harold, c'est moi, Judith. Nous avons enfin l'élu chez nous. Oui, une demi-journée par jour. » Alors Harold lui dit, « Oui, et après une demi-journée, dans un an, ce sera la journée complète. Ouf !» Gilbert, bien entendu, comme il va travailler, il verra moins Nathalie. Dans le café, il lui dit, « Je vais travailler l'après-midi avec mon père. Nous nous verrons moins. » Nathalie est surprise. Elle lui dit, « Je croyais que tu ne voulais pas, que tu ne voulais jamais travailler dans ses affaires. » Gilbert lui dit, « Oui, mais mon père est malade. Et il faut que je l'aide. » Elle lui dit, il y a du personnel pour ça. Il lui dit, oui, mais pas pour faire son propre travail. Et puis ça me permettra de voir les choses. Elle lui dit, moi je crois que tu vas lui céder. Sûrement pas. Mais ça me permettra d'avoir un peu d'argent. De toute façon, je ne pouvais pas refuser à mon père de l'aider alors qu'il est malade. Nous verrons le samedi et le dimanche. Nathalie, qui pense que sa mère n'aime pas Gilbert parce qu'il n'y a pas de situation et un salaire, le soir, elle va la retrouver au salon. Pour lui dire que Gilbert a un travail. Bonsoir, mère.
Bonsoir.
Tu vas être satisfaite? Gilbert a du travail chez son père. Sa mère lui dit,
je le savais. Ce monstre va continuer les horreurs. Il est comme les autres. C'est un criminel.
Nathalie lui dit, je ne comprends rien à ce que tu dis. À moins que tu sois communiste et que pour toi, Gilbert est un sale capitaliste. Sa mère lui dit,
il est pire qu'un capitaliste. Il veut tout, même le pouvoir de Dieu. C'est le diable, un criminel, comme tous les autres. J'ai encore moins le droit de le fréquenter qu'avant.
Nathalie lui dit, je ne comprends pas cette haine que tu as contre lui. Sa mère lui dit,
lorsque tu le comprendras, il sera trop tard pour toi.
L'après-midi, Gilbert va au bureau de son père.
Son père lui dit, tout travail mérite un salaire. Alors, tu vas avoir, tu en auras un. Je te paye 40 000 nets par mois. Ça te va?
Merci, père.
Et je vais te donner un bureau qui est à côté du mien. Viens voir. Aussi une voiture de fonction. Voilà.
Merci, père.
Voilà.
Merci, père.
Il commence à travailler. Son père lui demande de rester près de lui et de prendre des notes pour lui. En réalité, il ne fait pas grand-chose. Il écoute et prend des notes sur des choses qu'il croit importantes. Gilbert se rend compte que son père est le plus souvent dirigé. Ses collaborateurs lui suggèrent des choses ou lui disent qu'il doit le faire. Il voit qu'il est plus à leur service que au sien. Que les collaborateurs de son père sont étranges. Ils ont tous pareil, la même taille, le même look, le visage beau, net, dur. Le regard fixe, blond, yeux bleus, jeune dans les 30 ans à peu près. À père, il semble qu'on lui donne des ordres. Et à lui, il lui semble qu'ils ont plus de respect pour lui. S'incline, lui dit des formules de politesse. Font en sorte lorsqu'il visite un chantier qu'il n'ait pas d'accident. Gilbert se demande pourquoi ses collaborateurs de son père sont tous pareils. Gilbert demande à son père, mais pourquoi sont-ils tous pareils? Son père lui dit, ce n'est pas moi qui choisis. Et comme ils travaillent dans le siège, ils doivent avoir tous les mêmes qualités. C'est peut-être pour ça. Un après-midi que Gilbert est en visite à la clinique John Touricain, le directeur, M. Laville, l'a invité à son bureau.
Entrez, je vous en prie. Venez vous asseoir. Et David va s'asseoir à son bureau.
Ah. L'avenir de l'homme, vous savez, c'est de devenir immortel. Et il deviendra immortel par la robotique. Gilbert lui dit, je ne comprends pas. Il lui dit, non mais, le cerveau d'un homme dans un corps de robot... Et comme ça, plus de problème physique. Si le robot meurt, on change de robot, on met le cerveau dans un autre robot. Mais comme l'immortalité ne peut être donnée à tout le monde, parce que ça ferait trop. Alors il faut sélectionner et prendre que les bons éléments.
Comment ?
La ville lui répond.
En sélectionnant par des tests des enfants et en leur donnant une éducation spécialisée plus poussée que la moyenne. Ce seront les hommes nouveaux.
On est en train de créer des villes pour ces hommes nouveaux, comme la ville de Toulouse par exemple. Ils seront entre eux, ils pourront aller de l'avant sans être dérangés par les autres. Si les autres ne peuvent pas suivre, ils mourront d'inadaptation, mais ne nuiront pas aux autres. Il ne faut pas que les faibles empêchent les gens d'aller de l'avant.
Médiocrité ne nuira plus aux nouveaux hommes qui voudront aller de l'avant. Le monde humain sera divisé en deux. D'un côté, la masse qui ira comme elle peut et qui aura 1000 ans de retard et sera le déclin. Et de l'autre, les hommes adaptés au monde nouveau qui fera aller de l'avant l'homme. Le Moyen-Âge, c'est cela. D'un côté, la masse qui stagne et même retourne en arrière, de l'autre, un petit groupe qui avance dans le progrès.
Mais c'est inhumain,
la ville lui dit. Non, bien au contraire. Si l'on ne protégeait pas dans des lieux privilégiés pour qu'ils ne puissent pas être ensemble avec les autres, ceux qui ne veulent pas faire avancer l'humanité, ils empêcheraient les autres de faire avancer l'humanité. Et ce serait dangereux pour l'avenir. La masse de gens est toujours barbare et la civilisation n'est qu'un tout petit groupe infime de gens. Si l'on détruit ce groupe en le mettant en contact avec les autres, il n'y a plus de civilisation. La masse les tuerait car elle refuse d'instinct tout ce qui est civilisé. Car qui dit civilisé dit contrainte, et plus un peuple est civilisé, plus il a des interdits et des contraintes. C'est pour ça que l'homme civilisé est plus fragile que le barbare. Le barbare a peu ou pas d'interdits. Il vit d'instinct et est très près de la nature. Il est plus fort que quelqu'un qui s'en est éloigné. Et l'homme civilisé s'éloigne de la nature. La nature lui est hostile, nuisible. L'homme aussi.
Il dit, vous avez raison, mais et la charité ? Être humain, c'est être sociable.
Et les droits de l'homme, la ville lui dit.
Être sociable et aussi croire aux droits de l'homme, c'est très civilisé. Malheureusement, le droit de l'homme, la charité, peuvent devenir une arme terrible contre la civilisation. Des hordes de barbares peuvent demander et exiger de l'aide au nom des droits de l'homme et de la charité. Et que ça devient entre eux, entre leurs mains, une arme plus grande, plus terrible que la bombe atomique. Parce que le droit de l'homme, de la charité, est une formule magique qui leur ouvre toutes les portes des cités civilisées et leur permettre de tout prendre. Lorsque la formule magique est dite, on ne peut rien faire que s'incliner et devenir l'esclave de ceux qui l'ont dite.
L'heure ou le jour où les cités protégées, civilisées, auront été envahies, prises, dépouillées et les cerveaux détruits, sera le début d'un hiver terrible, la fin de l'homme, du monde civilisé.
l'homme se perdra dans la nature et deviendra une bête comme les autres. L'intelligence, la culture aura disparu.
Gilbert lui dit, c'est terrible ce que vous dites, car d'après vous, l'homme civilisé, ou plutôt plus intelligent que les autres, doit être protégé des autres et même se défendre. Si vous dites que l'on redeviendra primaire, il n'y aura plus de groupe de civilisation humaine alors.
La ville lui dit, jusqu'au jour où un homme verra les choses autrement, brassera plus que les autres, où il y aura un renouveau, car il y a toujours des hauts et des bas. Arrivé à un certain stade, les civilisations s'entretuisent de l'intérieur par des idées trop civilisées et humanitaires. Ils veulent que le bien-être soit pour tous et qu'il n'y ait aucune différence entre eux et les autres. En se banalisant, en disant qu'ils sont comme les autres et que leur civilisation n'est pas plus mieux que les autres, que leur religion est une religion parmi les autres, on est œcuméniste, égale fin de sa propre religion, puisqu'elle n'est pas mieux que les autres. On est pour la bigarité de la culture, donc on nie sa culture. C'est nier ce que l'on est. L'on rehausse les autres en rabaissant soi-même, et les autres, comme ils voient que nous nions, ils n'ont plus qu'à venir nous prendre. Ensuite, après un long siècle, les autres, grâce à la fortune qu'ils ont volée, la culture qu'ils ont prise, deviennent forts, dominent, puis ils deviennent plus cultivés, civilisés, ensuite ils deviennent plus bestes, à long terme ils deviennent plus faibles, et ça recommence. Faibles prendront leur place, etc. Mais pour l'homme du futur, qui eux seront éternels, il faudra une stabilité éternelle, donc les protéger des autres, et qu'il n'y ait qu'eux qui doivent l'être. Il faut des hommes pour un monde civilisé, des hommes au cerveau exceptionnel. Gilbert lui dit, c'est la science-fiction tout ça pour le moment. La ville lui dit, non, ça se prépare maintenant, dans nos laboratoires, dans nos écoles, usines, nous avons des sélections, et l'on construit déjà des villes pour ça, pour le futur.
Charlotte est très heureuse que le père et le fils travaillent ensemble. En prenant thé avec une de ses amies, une grande dame sèche, blonde dans les 55 ans, d'ailleurs vert vif. Elle lui dit,
je suis très heureuse. Mon fils est merveilleux. Il aide son père dans ses affaires.
La femme lui dit, comme vous avez de la chance. Moi, le mien ne veut rien savoir.
Charlotte lui dit, Gilbert apprend très vite, son père est très satisfait de lui.
La femme, qui est Madame Lepic, lui dit,
il va prendre la succession de son père. Je crois, de toute façon, nous n'avons comme enfant que lui, alors.
Charlotte organise des soirées pour annoncer que le père et le fils sont ensemble. Gilbert honteux lui dit.
Mais. Tu connais l'histoire de la grenouille à grande.
Mère, vous exagérez. J'ai l'air de quoi, moi? Fils à papa qui est incapable de trouver du travail sans son aide. Et puis vous savez très bien que je n'aime pas ça. Elle lui dit, fais plaisir à ton père.
Mais on se bouge le cul.
Il y va avec Julien. Julien lui dit, alors tu es l'héritier? Gilbert lui dit, je ne suis rien du tout. Monsieur Jean-Jules lui dit, vous savez, comme Julien, il ne voulait pas être l'élu. Gilbert lui dit, l'élu de quoi? Jean-Jules lui dit, je ne sais pas, on disait comme ça. Jean-Jules est triste, son petit Sébastien est parti travailler à Lyon. Et on ne le verra plus, il ne sera plus chez lui pendant un mois.
Viens danser, allez, viens danser.
Gilbert lui dit, je ne comprends pas du tout. Pourquoi cette fièvre qu'il y a? Parce que, sous prétexte, j'ai accepté d'aider mon père. Et même de l'aider un tout petit peu, Jean-Jules lui dit. Les gens sont heureux que vous preniez les responsabilités et que vous appreniez votre métier. Gilbert lui dit, mais je ne veux pas être PDG. Jean-Jules lui dit, on ne choisit pas sa destinée. On est ce que les autres veulent que vous deveniez. Et puis, on a besoin d'un chef, ce sera vous. Gilbert est furieux et lui dit, vous êtes contre moi, vous aussi? Jean-Jules lui dit, non jamais, mais je constate ce que tous les gens, et malheureusement, votre avenir, pour eux, est tout tracé. Gilbert lui dit, non jamais, de toute façon, je suis incapable de faire marcher une chose aussi immense et que le groupe Franblanc. Jean-Jules lui dit, il le faudra bien, et puis il vaut mieux que ce soit vous qu'un autre, non? Si le groupe est pris par une personne malhonnête, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Rendre tous les hommes esclaves, faire obéir le monde, les mettre à leurs bottes. Avec vous, on peut être tranquille.
Ça te manque ou pas?
Gilbert lui dit, avec moi, oui, mais il y a une équipe de collaborateurs qui est déjà en place, et eux, depuis que je suis avec mon père, je vois bien. Jean-Jules lui dit, vous voyez, vous êtes obligé de rester près de votre père pour l'aider, de le défendre de tout ce monde. Gilbert lui dit, même si je le voulais, je ne sais pas comment. Et puis je pourrais défendre mon père. Ils sont si nombreux. Et.
C'est pas la peine de faire cette tête, hein. Pour moi ça change rien.
Réticent.
Ce que tu peux faire avec les autres, je m'en fous.
Que Jean-Jules lui dit. Avec vous,
nous,
ils le seront moins.
Le reste, tu crois pas?
Pourquoi? Parce qu'ils vous respecteront plus. Pourquoi je ne suis que le fils? C'est bien ça. Ils vous respectent sûrement plus pour eux. C'est important. Ils ne peuvent rien faire contre vous. Gilbert lui demande, pourquoi? Parce que vous êtes ce dont ils ont le plus besoin. Et mon père alors? Jean-Jules lui dit, votre père, pour eux, ce n'est rien. Disons qu'ils ont le régent. Qu'il est le régent en attendant que vous preniez le trône. Gilbert lui dit, c'est pas demain la veille. Expliquez-moi plus clairement. Jean-Jules lui dit, pas vraiment. Mais rappelez-vous du château et d'un tas de choses. Gilbert lui dit, oui, je sais, les tableaux aussi. Mais ça n'a aucun rapport avec moi. Il doit être une secte qui s'est emparée du château. Jean-Jules lui dit, s'ils se sont emparés du château, c'est qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Quoi? Jean-Jules lui dit, peut-être vous. Mais pourquoi? Jean-Jules lui dit, parce qu'ils ont besoin de vous. Gilbert lui demande, pourquoi faire? Pour avoir le pouvoir. Gilbert hausse les épaules et lui dit,
Ou vous savez quelque chose, ou vous me le dites vraiment. Vous ne savez rien, mais des questions qui ont pour réponse d'autres questions, c'est agaçant. Et Jean-Jules lui dit, pardonnez-moi, je suis un vieil imbécile. Ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas de vraies réponses.
Gilbert lui dit, j'aime mieux ça. Mais vous pensez toujours que ce sera malgré moi, que je serai malgré moi le successeur de mon père?
Jean-Jules lui dit, oui, je le crois.
Gilbert lui dit, eh bien moi, je ne le souhaite pas. Et vous, Sébastien?
Jean-Jules lui dit, il a dû me quitter pour un travail. Il doit décorer une maison à Lyon sur les quais de Saône. J'ai voulu aller avec lui, mais il a refusé. Il m'a dit que ça ferait jaser un vieil homme avec lui. Alors j'ai préféré rester à Paris, surtout que j'ai à voir des choses.
Quelle est la plus forte somme que vous ayez jamais dépensée? Voyons.
Les jours passent. Gilbert voit Nathalie une fois par semaine. Elle est triste, mais ne lui montre pas. Il lui dit, ça me permet de gagner un peu d'argent et de mettre de côté pour nous deux. Nathalie demande, tu vas prendre la place de ton père? Il lui dit, n'en est pas du tout question, j'en ai pas l'intention. Ils se promènent dans la campagne pour manger dans des auberges. Les jours passent comme ça.
Judith, après son travail, entre dans sa voiture.
Elle va dans des rues de plus en plus tristes et sales, étroites. va arrêter sa voiture dans une de ses rues. Elle sort de voiture et va rentrer dans un vieil immeuble de 3 étages sans âge, délabré, gris. La porte de l'allée n'est pas fermée. L'allée est pleine de détritus. Ça sent l'urine et le reste. Les boîtes aux lettres sont cassées. Les marches sont sales, pleines de détritus. La minuterie ne marche pas. Elle marche en se tournant les mains au mur. Arrivée au premier, elle sonne à l'appartement de droite. La porte est ouverte. C'est une vieille femme sèche, grande, visage très maigre et autoritaire. Chignon gris. Elle porte une robe noire. La femme lui dit, « Vous êtes en retard !» J'étudie, « Vous auriez pu m'attendre en bas. Il n'y a pas de lumière. J'aurais pu me casser le cou. » Elle entre. La vieille ferme la porte. Couloir sombre, étroit. La vieille lui dit, « Suivez-moi. » Judith la suit. Elle longe un long couloir. La vieille frappe une porte. Entrez. Elle fait entrer Judith. Elle ferme la porte derrière elle. C'est une pièce sombre avec un homme à un bureau. Le bureau est un bureau Louis Philippe. Un fauteuil de la même époque est devant le bureau. L'homme est habillé de noir. Il est grand, maigre, cheveux blancs, l'air autoritaire. Seule la lampe du bureau éclaire la pièce. Ça semble très sombre, on y voit à peine. On ne voit pas vraiment la pièce. L'homme lui dit, asseyez-vous. Elle va s'asseoir au bureau qui est en face du... Tout se passe bien ? Elle lui répond, oui, pour le moment. Elle soupire et lui dit, nous avons fait un grand pas. Il était temps. On commençait à s'inquiéter. On ne comprenait pas ce qui se passait. L'on m'a dit, celui que vous savez, m'a dit que nous étions trop tendres et qu'il aurait fallu agir au lieu d'attendre et éliminer celui qui nous gêne. Pour qu'il puisse prendre la place. Elle lui dit, ça aurait été trop risqué. Il n'était pas prêt. Qu'est-ce que nous aurions fait pour réunir nos biens? J'aurais été incapable. Là, c'est mieux. C'était long, mais c'est mieux. Nous y sommes arrivés. L'homme lui dit, pas tout à fait. Il faut le former très rapidement. Elle lui dit, c'est impossible. Il y a l'autre, et puis il est réticent. L'homme lui dit, la deuxième phase doit se faire rapidement. C'est très urgent. Il faut qu'il devienne le vrai PDG. Donc, l'on doit éliminer l'autre et le reste de cette famille bâtarde. Elle lui dit, il est trop tôt.
S'il reste seul, il va nous échapper. » L'homme lui dit, « On n'échappe pas à son destin, surtout si c'est une destinée d'élu. »
Pour lui, ça ne veut rien dire. Il est jeune et ne croit en rien.
Il croira.
Elle lui demande, « Et Nathalie Poncet ?» Il lui dit,
« Elle descend de qui vous savez, mais elle ne le sait pas. Donc, elle nous est rien. D'une lignée, elle n'est pas d'une lignée digne. Si elle le savait, oui, mais là, non. Alors, tant pis, chagrin de jeunesse. »
Elle lui dit, « Mais c'est impossible. Sa lignée nous a tellement aidés, on ne peut pas faire ça. »
Elle lui dit, « Elle nous a reniés, et puis, nous n'en avons plus besoin. »
Mais, il lui dit, nous avons tous ce don.
Ils nous ont laissé, même le cahier et la formule.
Elle lui dit, alors a éliminé toute la famille.
Ce qui reste, et ce qui en reste, ce n'est plus rien.
Elle lui demande, et s'il veut se marier?
Avec qui?
Ce n'est plus là. Il faudra bien qu'il se marie pour sa descendance, non?
Il lui dit, ça peut se faire artificiellement, avec du sperme, l'ADN, et éviter les mélanges. Il sera exactement comme lui, et sans tache d'une autre personne. C'est mieux, non?
Elle lui dit, toujours célibataire, même pas pour une alliance?
Il lui dit, avec qui? Il n'y a personne.
Puis il lui dit,
donc, il faut passer à la phase 2, qui est la remise du pouvoir à celui qui doit l'avoir.
Elle lui dit, bien, phase 2, mais ce sera un peu long.
Elle lui dit, pas trop tout de même.
Il se lève et lui dit, je vous raccompagne. Elle se lève et l'amène jusqu'à la sortie du bureau.
Au revoir. Elle lui dit, bonne nuit. Elle sort et ferme la porte. Il retourne à son bureau. Sort de l'ombre, derrière le bureau, d'un paravent. Parce que c'était dans le noir, puisque la pièce était grande, on ne pouvait pas voir. La dame en noir, elle se met en face du bureau et dit, nous allons la surveiller. Je ne sais pas si ce n'est pas un petit fait pour lui, mais je crois qu'elle fera ce que l'on nous dit. Ce qu'on lui dit. Le vieil homme lui dit, ce sera long. Elle lui dit, oui. Il lui dit, pourtant, faudrait peu de choses. Un accident de voiture, par exemple, ou le feu dans sa maison. Elle lui dit, des fois je me demande si ce que nous faisons est bien utile. Il lui demande, pourquoi? Elle lui dit, eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, le bruit qui circule, l'élu, ce ne serait pas lui. Nous serions trompés. L'homme haut ses épaules et lui dit, qui dit ces bêtises? C'est bien le fils.
Elle lui dit, oui, mais le père n'est peut-être pas celui que nous aurions dû avoir.
Nous sommes trompés, peut-être, l'homme demande. Et qui? Elle est élue.
Elle lui dit, l'on dit que le vrai élu n'était pas Galien mais son cousin, qu'on se serait trompé.
L'homme lui demande, comment?
Elle lui dit, Genetou n'aurait pas connu la mère mais la tante.
L'homme lui dit, ce ne sont que des raconteurs.
Elle lui dit, c'était vrai. Il n'y aurait plus d'élu. Parce que Philippe est mort sans laisser d'héritier ni de corps ni d'ADN. nous aurions perdu à jamais l'élu. Et nous pourrions atteindre notre but. Ce serait la fin pour nous. Il lui dit, si l'élu n'est pas celui-là, nous sommes perdus à jamais. Et si nous devons l'élu qui n'est pas, c'est la fin pour nous. Il va tout pourrir. Mais si Galien n'était pas l'élu, il n'a pas détruit. C'est bien la preuve que c'était lui. Elle lui dit, « Le sixième continent, c'est pas une destruction ?» D'ailleurs, lui aussi, et en est mort. Elle lui dit, « Un accident ?» Elle lui dit, « Oui, un accident. Des milliers de morts. Des informations perdues à jamais. Alors, que peut faire l'autre ?» Le vieil homme lui dit, « S'il n'est pas l'élu, nous l'éliminerons. » Elle lui demande, « Et comment le savoir ?» Il lui dit, « Il faut faire une enquête. Faites-la. » Elle lui dit, « Elle est morte. » Il lui dit, « Chez les jeunes tout, la clinique, elle hausse les épaules. Ils sont bien trop heureux d'avoir l'élu et qu'ils viennent de chez eux. » Il lui dit, « Eh bien tant pis, à la grâce de Dieu, et nous verrons. Si c'est pas lui, nous mourrons tous, et le monde sera envahi de glace. La nature et les hommes mourront. »
Voilà.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.